Cette est une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez,
on y va.
Pietre, bonjour.
Bonjour.
Avec Racontez-nous votre recette, je vous propose un entretien convivial pour votre plaisir, pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous espérons, pour celui des auteurs de Divergence. François, vous êtes né à Angers à cause de la déclaration de guerre qui a conduit votre maman à fuir l'Alsace. Votre trajectoire professionnelle a fait de vous quelqu'un d'important concernant les questions de formation et vous a amené à une vie très riche de rencontres, de voyages, d'amitiés, de projets. Vous êtes un défricheur, un inventeur d'utopie qui a mis les mains à la pâte pour faire vivre ces utopies. François, vous vous êtes installé à Sète il y a 8 ans. Suite à un coup de foudre, manière de vivre qui est apparemment la vôtre. Je parle des coups de foudre. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait de cette installation ?
Oui, c'est dur comme question. Très dur. J'y suis venu il y a 8 ans, sachant que je venais pour y mourir, pour finir mes jours. Et j'espérais finir mes jours dans un contexte sympa, agréable, vivant, culturellement très vivant, qui expliquait le choix de mon installation. Là. J'ai eu peut-être le malheur de choisir de m'installer à l'endroit le plus central, c'est-à-dire sur l'esplanade, Aristide Briand, au cœur de la ville, mais au cœur du cœur de la ville. Manque de peau, si je puis dire, 2 ans plus tard, j'apprenais que cette place allait être détruite. Et donc ça fait 6 ans, 3 ans où, pendant lesquels j'espérais que le projet ne serait pas concrétisé, mais depuis plus de 3 ans, j'ai en face de moi des travaux, un chantier, un grand trou aujourd'hui inondé d'eau, une grue, des engins, du bruit, de la poussière, de la saleté, et surtout l'image d'une aberration totale. L'idée de faire un parking souterrain à cet endroit-là, en plein cœur de ville, pour y loger 300 voitures, c'est-à-dire faire venir et sortir 300 voitures en permanence en plein centre-ville, à l'endroit qui devrait être le plus piétonnier de la ville, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des décideurs aient pu faire un tel choix. C'est pour moi une absurdité totale, c'est un non-sens. C'est d'abord un projet qui date d'il y a un siècle, mais en plus, même il y a un siècle, c'était déjà un non-sens. Donc, non-sens absolu, bêtise, dépense d'argent considérable et maltraitance des habitants dont je suis. Voilà. Donc, je ne suis pas content de venir finir mes jours là. J'aurais dû choisir un autre endroit à Sète, mais là aussi, difficile, parce que c'est l'endroit... À côté du cinéma, à côté de la médiathèque, à côté sur la place du marché, sur la place de la brocante, pour finir ses jours, il n'y avait pas mieux, quoi. C'était difficile pour moi de choisir un autre lieu. J'ai choisi et je pense que c'est un mauvais choix.
Ben moi, j'ai eu un peu plus de chance de vous parce que j'ai moi-même choisi Sète pour y finir mes jours. Je voulais revenir dans le Mont Sud et je voulais voir de l'eau. Donc je me suis installé au bord d'un canal. J'ai un balcon qui donne sur un canal et j'espère que ce canal ne sera jamais couvert et je ne risque pas la même chose que vous. François, je ne vous ai pas invité pour Ban Public, mais on ne va quand même pas tourner autour du pot. Vous avez eu des mots assez durs et je vous comprends. Mais quand même, comment se fait-il qu'un maire, on en pense ce qu'on veut, de Comaine, il n'a pas toujours une très bonne réputation parmi les habitants de Sète, il a des procès, enfin bon, bref, c'est pas simple, il est maire depuis longtemps. Certains disent qu'il a relevé Sète parce qu'il avait une stratégie pour faire venir des gens, augmenter les ressources de la ville, etc. Mais comment peut-il s'obstiner à ce point ?
Écoutez, je ne veux pas répondre à sa place. Ce que je pense, c'est que depuis toujours, il est habité par une certaine image de la ville, une vision de la ville qui n'est pas la mienne, qui je pense n'est pas celle des vieux sétois, qui est de faire de cette ville ce que le plan Racine prévoyait à l'époque de Pompidou, c'est-à-dire une cité balnéaire attirant du monde, attirant des touristes l'été, attirant des bateaux avec une grande marina, etc. Et c'est vrai que le site est exceptionnel, protégé par le Mont-Saint-Clair. Alors, ce plan Racine de transformation de toute la côte s'est réalisé en partie à la Grande Motte, au Cap d'Agde, à Port-la-Nouvelle, dans un certain nombre de lieux sur la côte, mais à Sète, la ville de Sète, à l'époque, a refusé. Et donc, mais il y a très longtemps, hein, on est à l'époque de Pompidou, mais il y a 20 ans ou 21 ans, quand Comaine a été élu, je pense qu'il a voulu faire ressurgir ce projet d'une ville complètement différente, attirant les touristes, etc. Il le réalise en partie, hein. Les Airbnb se sont développés, il construit à tour de bras, donc la côte a été en partie construite du côté des Salins, du côté de, etc., du Lido, et puis maintenant il investit à l'entrée de Sète, quartier Est, de nouveaux quartiers pour y loger des gens, mais on a du mal à comprendre la logique. Pour moi, indépendamment qu'il y a des affaires sur le dos, je pense qu'il est sur son crépuscule. Je pense que c'est le crépuscule de Comaine qui est en train de vivre. Mmh. Et je pense que l'association Bon Public, dont je suis un des fondateurs, n'y est pas pour rien. Mmh. On a un écho assez considérable. Je prends un exemple. On a mis sur notre page Facebook un document, une photo simplement, du parking vendredi soir. Dimanche matin,
je l'ai eu.
Il y avait 8000.
Je l'ai eu. C'était un ouvrier dans le béton.
Voilà. Dans le béton.
Mais c'est ce qui est étrange pour terminer cette séquence. Peut-être on aura plus tard l'occasion de revenir sur Banc Public, parce que je veux dire, aujourd'hui c'est difficile de raconter Sète en oubliant qu'on est en train de dépecer son cœur. Et peut-être que M. Comaine et ses adjoints n'ont pas compris, c'est qu'une ville, c'est vivant, ça a un cœur, et que si on touche le cœur de la ville va souffrir. Donc pour terminer ça, je veux dire, c'est étrange que la justice n'a pas pu arrêter ça, l'État n'a pas pu arrêter ça. Mais en fait, c'est quand même étonnant. On a enlevé des arbres, on est en plein problème climatique, tout le monde dit qu'il faut virer la voiture. C'est insensé.
En plus, ils se sont illusionnés sur le fait qu'il n'y avait pas d'eau sur cette place, mais alors qu'aujourd'hui, il y en a de l'eau, des résurgences d'eau souterraine qui remontent en permanence. Donc je ne sais pas s'ils trouveront des solutions à leurs problèmes, mais du fait de ce fait-là, les travaux durent plus longtemps que prévu. Bon. Et l'État, les services de l'État ont tout laissé passer. Mmh. Un jour, j'ai téléphoné à un fonctionnaire qui instruisait le dossier. Je ne dirai pas dans quelle administration, mais ce n'est pas loin du préfet. Et je lui pose des questions sur où en était l'avis de l'État sur une partie du dossier. Il m'a répondu, c'est beaucoup trop politique pour que je vous réponde.
Ouais, d'accord.
Donc ça veut dire que les services de l'État se sont couchés, ouais, je ne peux pas dire autre chose, devant le pouvoir politique local. Et quant à la justice, on l'a saisie, mais la justice administrative, on est toujours en justice.
Oui, c'est toujours.
Ça, donc le jugement sur le fond contre le permis de construire, la demande d'annulation du permis de construire, devrait être jugée dans les prochains mois.
Oui, c'est ça, alors que tous les travaux sont commencés.
Voilà, ouais, c'est commencé, bien avancé. Bon. Et ça rappelle autre chose. À Sète, il y a longtemps, mais quand même à l'arrivée de Comaine, il a construit des immeubles dans le quartier du Lido. Et à l'époque, il y a des gens qui habitaient là qui ont saisi le tribunal administratif contre le permis de construire. Le permis de construire a été annulé. Les immeubles sont toujours là.
Oui, parce qu'ils sont construits.
Bah, on voilà. ne détruit pas les immeubles. On attend que la submersion marine fasse qu'ils soient détruits par la mer.
Bon.
Et là, c'est pareil. On risque d'avoir un parking fini alors que le permis de construire sera annulé.
D'accord.
J'en sais rien. Je ne suis pas prophète. Hein.
Mais bon, François, on va
passer à autre chose. Oui,
oui, parce que ça, c'est, je comprends votre déception, désarroi, colère.
Colère,
même,
enfin, colère,
voilà.
Colère.
Moi, si on couvrait le canal devant chez moi, je ne sais pas ce que je ferais. Enfin, il y aurait un problème. Mais on va essayer de revenir à cette. Dites-moi, François, si cette était une fleur, pour vous, ça serait quoi?
Oh. Ah. Peut-être une orchidée, parce que c'est fragile.
Ouais.
C'est une ville dont l'équilibre est fragile.
Ouais, d'accord.
Et donc, je pense que si on la touche trop violemment, cette peut en mourir, ou du moins être très abîmée.
Et si c'était une œuvre d'art?
Hein? Pour moi, je le verrais plus comme une sculpture.
Une sculpture.
Une sculpture, un rodin. Ou,
ah, carrément.
Oui, oui. Oui, c'est
et c'est un beau. Oiseau.
Un gabion, tout
ah,
simplement.
Ah, ben voyons. J'allais vous dire, ne me répondez pas, un gabion. Voilà, donc un gabion, tout le monde, tous les auditeurs de Radio Divergence savent ce que c'est qu'un gabion. Et enfin, et si c'était une odeur?
Écoutez, là-dessus, je vais faire un témoignage. Ma compagne est née au Maroc. Quand on a choisi de venir à Sète, mais évidemment on était venu déjà plusieurs fois, et au marché, ce qui l'avait frappé, c'est de retrouver des parfums marocains.
Ouais, ouais.
Et donc, finalement, si c'était une odeur, eh ben, c'est celle des épices
d'accord,
de la Méditerranée.
Ouais.
On est au bord de la Méditerranée.
Et oui, absolument.
Et donc,
c'est quand même le deuxième port français sur la Méditerranée.
Absolument. Absolument.
Et enfin, François, si c'était une musique?
Brassens.
Brassens, laquelle?
Brassens, Banc Public.
D'accord. Eh bien, écoutez, notre technicienne va nous trouver Banc Public de Brassens, qu'on va avoir. Je suppose que votre association a choisi. C'est vraiment un très beau choix. Et pour ça, c'était difficile de trouver mieux. La personne qui a eu cette idée, c'est très, très bien. Il n'y avait même pas de discussion. Quand on veut, alors on va écouter Brassens.
C'est un militant de l'éducation populaire.
D'accord.
Et le jour, quand on a créé l'association, on était 8 autour de la table, chez moi, et il a proposé ce nom. Et il n'y a pas eu d'hésitation, un instant.
Alors on écoute Brassens.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Et alors. Une fois cette chanson passée, donc on va retrouver cette à travers Brassens. Cette ville, si on laisse de côté tout ce que vous avez dit au début, et indépendamment des odeurs de votre compagne, c'est pourquoi vous avez choisi cette,
ouais? Pour moi, c'est une longue.
Parce que vous ne saviez pas quand même.
Je connais Sète depuis plus de 50 ans.
Ah, big.
Et juste après 68, avec ma femme, la mère de mes enfants, on a eu le projet un peu fou de créer un café-librairie-imprimerie. Voilà, c'était 68. Et donc en 70, on est venu à 7.
Ah, et vous avez voulu créer ça à 7?
On voulait faire ça à 7.
Ah.
On s'est promené dans les rues, des quartiers hauts, de la mairie, là. Les quartiers italiens, on va dire aujourd'hui, depuis toujours.
Oui, depuis toujours.
Et c'était trop cher. On était fauchés.
Ah oui, mais...
On avait 30 ans.
Et c'était déjà trop cher.
C'était trop cher. Mais parce qu'on n'avait pas d'argent.
On c'est pas très cher, mais
on était trop jeunes, on n'avait pas... Ouais. C'était un rêve. Et finalement, le peu d'argent qu'on avait, on s'en est servi pour acheter une petite maison à Metz.
Ah, Metz.
Une maison de pêcheur, tout près du port.
De l'autre côté du...
De l'autre côté de l'étang, voilà. À 100 mètres du port. Et cette maison, elle existe toujours, et elle appartient maintenant à mes enfants.
Ah.
Donc mes enfants, ils passent leurs vacances. Donc depuis 50 ans, il y avait cette maison qui nous servait de maison de vacances.
Oui.
On y venait toutes les vacances.
Ah, d'accord.
Et de là, évidemment, on est à 7. Alors 7, mon amour de 7, il est lié au canot. Et
ouais.
Au port.
Ah, oui.
Et, au vieux Sept.
Ouais.
Au Sept italien.
Ouais.
Pour moi, Sept, c'est la Méditerranée. C'est mon amour de la Méditerranée, de ce que j'appelle Mare Nostrum. Moi, je connais le Maroc, je connais l'Algérie, je connais la Tunisie, je connais la Grèce, je connais l'Italie, je connais l'Espagne. C'est ma mère. Je sens. La Méditerranée, je suis chez moi. Voilà. Quand je remonte vers Lille, etc., ou la Belgique, j'ai beaucoup de respect pour eux.
Oui, oui.
Mais je ne suis pas chez moi.
Je vous comprends très bien.
Alors quand je suis en Algérie ou en Tunisie, en Algérie aussi, je me sens plus chez moi. Et donc, voilà, c'est une ville d'Améternée. Et en plus, c'est un port. Et c'est un port... C'est un port italien. C'est un port de pêcheurs, d'abord. Pas qu'un port de marchandises et de voyageurs. C'est un port de pêcheurs. Ça crée tout de suite une atmosphère particulière. Et tous les ports, c'est aussi un mélange de populations. Donc il y a une richesse culturelle, une richesse des gens. Et puis, la richesse italienne. Hein.
Ouais.
Les Napolitains, c'est pas n'importe qui.
Ah, c'est pas...
D'ailleurs, ma fille, du coup, elle est posée à un Napolitain.
Ah, bien. les chiens font pas les chiens.
Voilà. Et donc, cet amour, il reste. Moi, j'aime cette... Je continue à aimer cette. J'aime pas l'endroit où je vais y mourir, quoi. Mais parce que je peux, j'ai pas les moyens de déménager, bon.
Oui, c'est sûr.
Cette est une ville. Alors, et en plus, culturellement, cette est une ville riche.
Oui.
Riche. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains,
ouais.
Des peintres, des sculpteurs, etc. Il y a beaucoup.
Presque trop, d'ailleurs. Parce
peut-être
que ça,
trop.
Ça se bouscule un peu.
Un peu.
Ah ouais.
Alors.
Ça se bouscule un peu, et moi, je trouve que. C'est à la fois bien et à la fois, ça fait beaucoup de petites féodalités, si je peux dire. Féodalité est un peu trop fort, des petites coteries entre soins, ça se parle un peu, mais...
Dès qu'il y en a trop, ça devient de l'entre-soi.
Voilà, c'est ça.
Il y a de l'entre-soi.
Voilà.
Et par rapport à ça, il y a aussi un conflit, pour moi, qui existe entre... ce que j'appelais la culture populaire avec des artistes,
ouais.
Et des mouvements d'éducation populaire,
ouais.
et puis les festivals
ouais.
Officiels,
ouais.
Ça me gêne beaucoup,
ouais. Ouais.
Parce que je trouve que les festivals officiels, le cinéma, etc., ont tendance à étouffer
oui.
La culture populaire à 7.
Oui, bien, et pas qu'à 7, d'ailleurs.
Pas qu'à 7.
Pas qu'à 7,
mais à 7, il y a matière,
oui.
Et il y a des gens.
Oui.
Donc il y a tout le potentiel possible
ouais, ouais.
D'une éducation populaire qui fonctionne et d'un art populaire etc. Et je trouve que c'est bridé, que c'est pas ouais. Laissé, c'est pas assez libéré.
Et puis c'est pas surtout,
c'est étouffé.
Et puis surtout il faut que ça soit collectif et donc aidé. C'est ce débat sur qu'avait initié Maurice Druon, ce crétin d'académicien. J'ai le respect pour le Druon de la Résistance, mais pas le Druon du... on va pas donner de l'argent à des gens qui tendent la sébile d'une main, le cocktail Molotov de l'autre. Enfin, quand même, il se prend pour qui ? C'est pas ses sous.
Oui.
C'est... Donc, ce mouvement culturel populaire... ne peut pas être ce qu'il est en train de devenir entre les mains du libéralisme et du commerce, parce que ça va le tuer, voilà. Mais je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite. Je n'ai pas de bateau à 7 parce que je suis trop vieux, et puis je veux dire, c'est un entretien, etc. Mais j'ai un souvenir absolument magnifique. J'avais un très bon ami à La Rochelle, et je suis rentré un jour en bateau, un petit voilier dans le vieux port de La Rochelle. et passer les deux portes des quatre sergents, arriver dans cette ville ouverte, comme si elle ouvrait les bras sans défense, c'est un souvenir que je n'oublierai pas. Et donc, il y a cette tradition dans les ports. Ils sont protégés de la mer, il y a une digue à cette, mais quand on est rentré, on est dans la ville, et je ne connais aucune ville où il y a, au bord de ces canaux, des bateaux aussi gros qu'à cette.
C'est vrai.
Donc ça laisse pas la ville indifférente.
Alors, il y a très longtemps, donc il y a 40 ans peut-être, j'ai fait du bateau avec un petit 8 mètres qui était basé sur les Tantos à Metz, et on allait en mer, donc on franchissait, on commandait les ponts et on franchissait les ponts quand ils s'ouvraient, les quatre ponts pour aller en mer, et on revenait le soir, après un tour en mer, on revenait le soir, ou deux ou trois jours après, si on faisait une virée plus longue, à Metz. Mais il fallait arriver à temps pour arriver à l'heure d'ouverture des ponts. Et ça m'est arrivé deux fois, qu'il n'y avait pas de vent, et donc je ne suis pas arrivé à temps. Et j'ai passé ma nuit dans le port de Sète. Et alors je peux vous dire que c'est de très bons souvenirs.
Ah oui,
c'est très bon souvenir. C'est un tout petit bateau. Il fallait quand même prévenir ma compagne, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, que je n'arriverais pas, que j'étais bloqué à Sète.
Et pas noyé.
Non, que j'allais bien, mais que j'étais bloqué à 7. Et que j'allais dans un petit resto à 7 et dormir sur le bateau. Voilà. Et donc j'ai des souvenirs du port de 7, vus par la mer, quoi, qui sont des très bons souvenirs. Ouais. Le port de 7 a vraiment un cachet considérable. Et les bateaux le long des quais, tout ça,
ouais,
ça fait de 7 une ville portuaire exceptionnelle.
Oui, c'est pour ça qu'ils organisent tous les deux ans, je crois, Escala 7.
Oui, c'est magnifique.
Voilà, où il y a des vieux bateaux, des grands voiliers, ouais, et qui drainent une population considérable. Donc, c'est un port, mais parlez-moi de ça un peu, c'est aussi une ville touristique.
Trop. Ah ouais. Trop. Peut-être pas dire ça, parce que ça fait vivre...
Tous les autochtones disent qu'il y a trop de touristes. Je ne parle pas de Sète, ouais, hein, je parle partout.
Ben, le problème, c'est que si on développe trop le tourisme, avec ce qui est déjà le cas, avec des Airbnb partout, il y a même des bateaux qui font Airbnb. Hein.
Ah bon?
Oui, ouais, bien sûr.
Ah ben, on n'arrête pas le progrès.
Oui, on n'a pas le problème. Vous pouvez prendre.
Mais je croyais que ça allait être muselé.
Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement, Parlement...
C'est le jour où on aura un gouvernement, voilà. François. Mais,
c'est vrai que... écoutez, ce qui est fascinant, 21 ans que M. Comeyne est maire. En 21 ans, la population n'a pas augmenté.
Ah bon?
Pas du tout.
Ah, c'était étrange.
Pas du tout.
Mais pourtant, on dit qu'il y a une attraction, les prix flambent.
C'est les touristes. La population sétoise
n'a
pas augmenté.
Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de logements vides.
Il y a beaucoup de logements vides,
oui.
Beaucoup de logements en location saisonnière.
D'accord.
Et du coup, les jeunes sétois... Les trentenaires qui se marient, qui ont un enfant ou deux enfants,
ils sont coincés, oui,
et qui veulent vivre leur... fonder une famille, vivre leur vie,
ils sont coincés.
Ils partent. Oui, ils partent à Frontignan, ils partent à Balaruc, essentiellement ces deux villes, un peu à Metz, mais c'est surtout Frontignan et Balaruc, où ces jeunes, c'est toi, vont vivre tout en travaillant à 7. Hein.
D'accord.
Donc avec des mouvements pendulaires de circulation.
Je pensais que c'était plus entre 7 et Montpellier, mais c'est Frontignan et Balaruc.
Pour le logement.
À cause du logement.
Les gens ne vont pas se loger à Montpellier, c'est trop loin.
Mais c'est trop loin, puis donc, c'est sans doute trop cher aussi.
Peut-être trop cher aussi. Donc ça pose un problème, parce que ces jeunes couples avec enfants, c'est une population qui pourrait rester à 7, et la population sétoise pourrait augmenter.
Eh ben oui.
Elle augmente potentiellement.
Oui, d'accord, j'ai compris.
Mais en réalité, elle augmente
effet,
pas.
Voilà, c'est un effet pervers.
Le tourisme, du coup, fait monter les prix.
Oui.
Et les gens, les propriétaires, préfèrent louer
ça va.
En location saisonnière
bien sûr.
Que de vendre louer à l'année.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une équation difficile à résoudre. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse dans une petite station balnéaire, à côté de Royan, il y avait l'hiver 900 habitants et 25 000 l'été. D'accord ? Donc je sais ce que c'est. Et cette espèce d'injonction paradoxale, on les déteste et on les aime parce qu'on a besoin d'eux. Voilà. Mais dites-moi, donc, moi j'avais prévu le coup étant à habitué à ce truc, ce qui fait que j'ai un moment de repli. Je pars de 7 mi-juin et je reviens mi-septembre, ce qui fait que j'échappe aux 7 touristiques. Comment c'est l'été, à part la chaleur?
Heureusement, il y a les plages qui sont immenses. Ouais. Et les plages permettent à la population de se répartir. Mais la ville, le centre-ville, le marché notamment, c'est bondé de monde. C'est vraiment bondé, quoi. Ouais, ouais. La population, elle double. Hein. Ouais. Plus que doublé, même. Donc, ça veut dire que le marché du mercredi, les halles...
C'est déjà plein. Je vais faire le marché le mercredi, on a du mal à avancer, c'est bourré.
Ah oui, mais alors...
Alors l'été, c'est quoi?
En été, c'est plus que bourré.
On se tape dessus.
Non, on se pousse. Ah, on se pousse. Moi, j'ai mes stratégies, je passe derrière les étals. Et non pas au milieu du marché.
Vous êtes un vieux renard, François.
Ben, parce que, avec ma canne, c'est difficile de pousser tout le monde, donc...
Bon, il faut aussi qu'on a beaucoup parlé de ça, et si on parlait un peu de vous, alors vous avez une trajectoire longue, aventureuse, pas dénuée d'aventures, visité beaucoup de pays, rencontré beaucoup de gens. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans la formation d'adulte, hein ?
Oui,
depuis... Pour résumer ça...
Dans la formation d'adulte, essentiellement.
C'est-à-dire...
Alors avec, j'ai eu des postes universitaires, j'ai eu des postes en éducation nationale, mais sinon j'ai été toujours soit dans des organismes internationaux de coopération internationale, soit dans des organismes français, soit même à mon compte, j'ai créé une entreprise de conseil en formation des adultes pendant 15 ans, 20 ans.
Hein. D'accord.
Donc voilà, sinon j'ai... C'est une vie aventureuse parce que... Peut-être parce que je suis un instable de nature.
Ah, c'est bien. Moi, j'aime bien les instables de nature.
Et que j'étais incapable de m'imaginer faire une carrière rectiligne dans la même organisation. Donc, j'ai toujours cherché à changer de... Pas changer de boulot, mais changer de cadre, d'objet.
C'est un peu étrange, ça, quand même, parce qu'on n'est pas tout à fait presque... Enfin, on est ici quasiment de la même génération. Et souvent, je dis à mes filles, vous avez de la chance, dans votre malchance, on vous laisse un monde fichu, bousillé, détruit, vous avez tout à refaire, donc c'est plutôt un beau cadeau, refaites-le bien. Mais, j'ai dit, vous avez une autre chance, c'est que moi, quand je suis né, j'avais devant moi des rails rectilignes. Ouais. Il se trouve que j'en suis sorti parce que le théâtre m'a mordu. Ça, j'y peux rien, ça s'est fait comme ça un jour, je suis passé à côté et paf, il m'a chopé. Et vous, vous auriez pu faire pareil, une carrière d'universitaire. Qu'est-ce qui vous a mordu?
Parce que ce qui m'a mordu, c'est que je voulais pas faire tout le temps la même chose, quoi.
Ouais.
J'ai pas voulu rester dans un truc où au bout de quelques années, j'avais fait le tour, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour, et j'ai rencontré des opportunités diverses qui m'ont permis de sortir, y compris de mon statut de fonctionnaire d'ailleurs, pour aller dans des organismes internationaux, ou pour devenir conseiller d'un ministre, ou pour faire des trucs...
Ah, carrément.
Oui, oui.
Ah, ben alors, François, vous m'impressionnez.
Sur la formation des adultes, toujours.
Oui.
En 80, pendant...
Oui, je crois avoir compris, c'était M. Savary qui était un grand bonhomme. Ouais. Mais je crois avoir compris aussi que vous avez un point de vue un peu particulier sur la formation et que vous ne défendez pas la thèse d'un certain nombre d'imbéciles, je le dis comme je le pense, disciplinaires, c'est-à-dire qui disent... apprends tes leçons, ferme ta bouche, et puis voilà, mais que vous êtes plutôt partisan d'un dialogue, d'un échange, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire.
Eh oui, un jour, le conseiller de M. Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, me dit que la formation continue des enseignants est une catastrophe, parce qu'on y fait beaucoup de choses, mais on oublie les disciplines d'enseignement.
Ouais, ouais.
Et il me dit qu'il faudrait que tous les enseignants du secondaire s'inscrivent en études doctorales dans leur discipline pour pouvoir, je dirais, enseigner correctement. Et moi, je lui ai répondu, écoutez, un jeune enseignant d'histoire en collège qui va faire des études doctorales sur les apanages au XIIe siècle, ouais. Vous croyez que ce sera qui pourra mieux enseigner à des élèves ?
François, il va falloir qu'on s'arrête, hein, mais je vais vous faire une proposition. J'aimerais beaucoup, si vous êtes d'accord, vous réinviter une demi-heure dans un certain temps pour qu'on parle spécifiquement de ça cette fois-ci. Si vous en êtes d'accord. Là, je vais vous remercier, parce que le temps est imparti. Donc, merci de ce beau moment passé ensemble. Quant à notre prochaine invitée, ce sera une invitée. Et je préviens les auditeurs de Divergence, attendez-vous à un franc dépaysement. François, au revoir et à bientôt.
Merci beaucoup.
C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez,
on y va.